Seigneur. Royaume de ténèbres, là où nous étions morts et esclaves, Seigneur, dans le péché, à un royaume de lumière, Seigneur, où nous sommes tes enfants et aussi, Seigneur, co-héritiers. Père, quel grand privilège, quelle grande grâce, Seigneur, que nous avons en toi, Seigneur, de te connaître, de vivre une vie nouvelle, d'avoir, Seigneur, le pardon de nos péchés, de voir, Seigneur, une vie nouvelle dans la puissance et dans ton amour, Seigneur, et dans ta vérité. Et également, Seigneur, cet héritage merveilleux de la vie éternelle. Il n'y a absolument personne d'autre comme toi. Seigneur, nous voulons le souligner, le célébrer, Seigneur, ce soir. On profite également, Seigneur, en étant dans ta présence, Père, pour remettre toutes les situations, Seigneur, qui peuvent être au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus, premièrement. Des cas de maladie, Seigneur, des problèmes, des épreuves, de différentes situations que nos bien-aimés, Seigneur, peuvent être en train de vivre. Seigneur, tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu renouvelles tes bontés à chaque matin. En toi, Seigneur, nous avons la promesse et l'assurance, Seigneur, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien. Que tu es l'ombre à notre main droite, Seigneur, que tu ne sommeilles ni ne dors jamais. Celui qui nous garde ne s'endort jamais, Seigneur. Et qu'en toute chose, Seigneur, tu es plus que vainqueur, Seigneur, et que toute chose concourt au bien de ceux que tu aimes, Seigneur Jésus. En toute chose, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, partout, Seigneur, où nous sommes. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous savons que nous avons accès à toi. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons accéder à ton trône de grâce et que, Seigneur, tu entends nos prières et que tu réponds, Seigneur, à nos requêtes, que tu envoies ta parole, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, fait son travail dans nos vies, Seigneur. Peu importe la nature de la situation, de la difficulté, tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu es Seigneur et tu es Sauveur. Tu es pourvoyeur, Seigneur. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons célébrer, souligner cela, Seigneur, en guise de reconnaissance et en gratitude, Seigneur, envers toi, parce que tu es bon et parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es le commencement et la fin. Tout ce que tu commences, tu le termines. Tu es fidèle, Seigneur, pour mener ton œuvre à terme, Seigneur Jésus, et le faire avec excellence et dans la perfection, Seigneur. Alors ce soir, Père, parle-nous, parle à nos cœurs, Seigneur, que nous soyons disposés, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur, et être inspirés, transformés, instruits, convaincus, Seigneur, et même corrigés par ta sainte parole qui est la vérité. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite à ouvrir dans Apocalypse au chapitre 2. Nous allons lire à partir des versets 12 au verset 17. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Nous lisons comme ceci à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Ce soir, on continue depuis quelques interventions déjà que j'ai eu à faire. Le Seigneur a mis à cœur de partager, de donner quelques petits enseignements sur les lettres aux églises qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Il y a sept églises. Et donc, aujourd'hui, c'est juste une continuité. Et aujourd'hui, c'est la troisième lettre aux églises. Et c'est la lettre à l'église de Pergame. Nous avions vu auparavant que la première lettre qui était dirigée à l'église d'Éphèse était dans le fond une lettre avec, si on peut dire, le message principal, un appel à revenir à son premier amour. Une église qui était très forte dans la connaissance, qui avait à cœur de défendre l'intégrité de la doctrine, une église qui travaillait beaucoup, qui avait énormément d'efforts, de travail, qui était, on pourrait dire, qui était bien organisé, bien rodé, mais qui avait un problème profond et qui pouvait engendrer des conséquences fatales, et c'était le manque d'amour ou l'abandon de l'amour, que c'était pas un accident, c'était des décisions prises au fil du temps de prioriser autre chose que l'amour de Christ, que l'amour de Dieu, que l'amour envers Dieu, que l'amour les uns envers les autres, qui mettait à risque, dans le fond, cette église. Et ça, c'était le message clé ou le message principal de la lettre à Éphèse. Nous avons vu aussi la deuxième lettre qui était dirigée à l'église de Smyrne, avec comme message principal l'exhortation d'être fidèle jusqu'à la mort. Et on avait vu qu'il y avait des tribulations qui étaient annoncées, que déjà il y avait des épreuves à cause de la persécution que les chrétiens vivaient, des tribulations qu'ils vivaient, qu'ils étaient exclus de certaines sphères de l'économie, de la société même, de la ville, mais que le Seigneur leur disait de ne pas craindre, qu'il serait avec eux, et qu'il y aurait également des récompenses. Donc, on parlait essentiellement d'être fidèle au Seigneur, malgré les épreuves et malgré les tribulations. Et aujourd'hui, eh bien, on va discuter, on va parler de la lettre à l'église de Pergame. Mais avant, juste pour mettre un peu le contexte et mettre la table dans le fond pour qu'on puisse comprendre bien un peu l'essence qu'il y a dans ce message, on va faire un petit survol de ce qu'était la ville de Pergame à l'époque. Il faut dire que toutes ces villes-là n'étaient pas très loin l'une de l'autre. C'était parfois des villes voisines qui aujourd'hui se trouvent dans le territoire sous contrôle de la Turquie. Pergame était une ville qui se trouvait au nord d'Éphèse. Et c'est une ville qui est devenue importante et riche également sous la gouverne d'Alexandre le Grand. On note et on reconnaît cette ville également par la présence à un moment donné de son histoire d'une grande bibliothèque qui, selon certains, aurait contenu au-delà de 200 000 livres ou manuscrits ou documents. Et que cette bibliothèque-là, par la suite, un des empereurs, je pense que c'est Marc-Antoine, pardon, l'aurait transféré à Alexandrie, un peu comme un cadeau à Cléopâtre, et qui est allé dans le fond garnir la grande librairie ou la grande bibliothèque qui se trouvait en Alexandrie, en Égypte. C'est une ville qui a également été reconnue pour ses édifices impressionnants, notamment les temples. C'était une ville avec beaucoup de temples. Et donc, c'était un lieu, un grand lieu, un grand carrefour de culte païen, d'adoration païennes. On retrouvait entre autres des temples en l'honneur de l'empereur, un temple, le temple d'Athéna, qui était la déesse de la sagesse, de Dionysos, qui était le dieu de la vigne, d'Esculape, qui était le dieu de la médecine. Il y avait également Déméter, qui était le dieu de la nourriture ou des aliments. Bref, de grands temples et également des dieux qui touchaient différents aspects de la vie des gens. Pour ce qui concerne le dieu de la médecine, Esculape, il y avait un autre nom, c'est Asclépios, et beaucoup de gens étaient attirés à Pergame dans le but d'avoir une guérison. Donc, ils allaient dans ce temple-là pour être guéris. Un fait particulier, c'est que un des symboles de ce dieu-là était le bâton avec le serpent autour, qui aujourd'hui, on le retrouve encore dans certains, dans la médecine, en fond, dans la santé, dans certaines institutions. Ça vient justement de cette divinité de la mythologie. Et un autre élément important, c'est qu'il y avait la présence d'un autre temple qu'on l'appelait le grand autel de Pergame ou le grand autel de Zeus. Et dans le fond, c'était le temple avait été érigé en l'honneur de Zeus. Zeus étant le dieu des dieux ou le roi des dieux ou la figure la plus importante dans toute cette mythologie païenne de divinité que le monde de l'époque adorait. Maintenant, si on regarde tout ça, eh bien, les gens allaient à Pergame parce que soit ils avaient besoin de guérison, donc s'ils avaient besoin de guérison, ils allaient au temple de Esculape. S'ils avaient besoin de connaître un peu, de prendre des décisions par rapport à l'avenir, ou s'ils avaient besoin de guide un peu dans la vie, bien, ils allaient dans les temples d'Athéna. S'ils voulaient passer un bon temps, avoir du plaisir, eh bien, ils allaient au temple de Dionysos. S'ils aimeraient avoir une faveur de l'empereur, eh bien, ils allaient au temple de l'empereur. S'ils voulaient avoir un peu de provision, de richesse ou tout ça, bien, ils allaient dans le temple de Déméter. Bref, pour tous différents aspects ou différents besoins, les gens dans cette société-là pouvaient accéder, disons, à ces choses via une adoration à la divinité. Et par-dessus tout ça, eh bien, il y avait l'adoration à Zeus, qui était la figure la plus importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zeus était associé à Satan pour différentes raisons. Entre autres, là, le nom m'échappe et je ne veux pas trop m'embarquer dans l'histoire, mais à un moment donné, il y a un empereur qui était très anti-juif, qui a vraiment profané le temple. Et dans le lieu très saint du temple, il a sacrifié un cochon, sachant que pour les juifs, selon la loi de Moïse, c'était un animal impur, donc qui a amené cette abomination, cette impureté dans le lieu très saint et qui a même érigé dans le lieu très saint une statue de Zeus. Et il a interdit aux Juifs de se circoncire, de respecter la loi dans le fond, et même de parler l'hébreu. Donc ça c'était une époque où est-ce que on considère que c'était l'abomination de la désolation. Et donc, Zeus est associé à cela, et Zeus, bien sûr, est associé à Satan. Et pourquoi on le dit également, c'est qu'en regardant, dans le fond, tout ce qui se passait à Pergame, eh bien, les gens pouvaient accéder, disons, à des besoins, pouvaient trouver réponse à leurs besoins. Complètement séparés de Dieu, à cause de toutes les divinités qui couvrait tous les différents secteurs de la vie, eh bien, ces gens-là pouvaient entrer dans la vie de la société via une adoration, via l'adoration envers des figures païennes et non envers le Seigneur. Et ça, c'est exactement ce que l'ennemi veut. C'est exactement ce que Satan veut, c'est exactement ce que la Bible nous parle, que c'est l'esprit de l'Antichrist. Et au travers de l'histoire de la Bible, on voit qu'à chaque fois, le diable, ce qu'il a voulu avoir, c'est d'avoir l'adoration. C'est d'obtenir l'adoration des gens. Donc, en échange d'une faveur, en échange de la réponse à un besoin, en échange de quelque chose, bien, le diable a toujours et va toujours réclamer de l'adoration. Et c'est ce qu'on retrouve également dans l'esprit de l'Antichrist, dans ce qu'on voit dans l'Apocalypse, que les personnes dans un futur qui voudront faire partie de la société, c'est-à-dire de travailler, de pouvoir vendre, acheter, faire partie dans le fond de la vie de cette société-là, devront porter une marque. Et cette marque est un signe d'appartenance et d'adoration directe à Satan, à l'Antichrist. Donc, Pergame était déjà une société qui fonctionnait sur ces bases-là. Où est-ce que tu veux quelque chose, va au temple, adore, et tu vas l'avoir. Et tout cela se faisait dans une adoration qui était totalement exclue du Seigneur et totalement exclue de Dieu. Donc, une société qui pourvoit à tout, et le moyen d'y accéder est l'adoration dans laquelle Christ, Dieu, est complètement séparé. Ça, c'est clair que la source et l'origine de ce type de structure, de ce type d'organisation, bien, c'est le diable. Et le fait, en plus, qu'on retrouvait dans cette ville, dans le fond, le temple de Zeus, l'autel de Zeus, parce qu'il y avait des sacrifices qui étaient effectués également dans ce temple, démontre effectivement que ce n'était pas un endroit favorable pour les chrétiens. Néanmoins, il y en avait des chrétiens. Il y avait des croyants, des fidèles qui étaient dans la ville de Pergame. Et au verset 12, on voit la présentation de Jésus-Christ. Je vous avais dit au début, la première fois, lorsque j'ai parlé de comment les lettres étaient structurées, bien, une des choses qu'on retrouve à chaque fois au départ, c'est une présentation de Jésus-Christ. Et à chaque fois, comment Jésus-Christ se révèle et comment Jésus-Christ se présente a un lien avec l'Église, a un lien avec ce qui se passe dans ce lieu et a un lien aussi avec l'état spirituel de l'Église. Et voilà ce qu'on voit au verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Lorsqu'on lit cela, bien, je pense qu'on peut rapidement faire une association avec un autre verset qui est assez connu, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit que la parole de Dieu, elle est vivante et tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et qu'elle est capable d'aller faire un travail en profondeur et de faire une séparation, séparer l'âme, l'esprit, et de faire une séparation précise. Donc, ce que Hébreux nous dit, c'est que la parole, l'épée, est capable de faire un travail en profondeur et un travail qui est précis. Et un travail qui est tranchant. Je veux dire, une épée, ça tranche. Okay? Ça ne joue pas dans la dentelle, c'est pas quelque chose malléable. Non, c'est dur, c'est ferme, c'est coupant, c'est tranchant. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de compromis. Voilà l'épée. Donc, le fait que Christ se révèle ou se présente de cette façon-là est annonciateur de jugement. Celui qui parle avec une épée annonce qu'il va avoir un jugement tranchant. Et parle aussi d'un travail en profondeur qui doit être fait. Donc, un ordre qui doit être rétabli. La parole de Dieu fait cela. Les jugements de Dieu font cela. Et un travail ou un jugement dans lequel il n'y aura pas de compromis. ça va être clair, noir et blanc, ce qui est péché, péché, ce qui est pur et pur. Ce qui est saint est saint, ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Ça va être clair, il n'y aura pas de zone grise, il n'y aura pas de nuance, il n'y aura pas de oui, mais. Elle sera claire et nette, tranchante. L'application de ce discours, de ce jugement-là. Et nous savons bien que Satan sera jugé et que tout le monde, tout le système qu'il a mis en place le sera également. Je ne crois pas que le jugement de Dieu sera un petit jugement. D'où la raison pour laquelle Jésus-Christ se présente comme ce juge avec une épée et une épée à double tranchant. Au verset 13, nous lisons, « Je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan. Je sais que où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan à sa demeure. » Premièrement, eh bien, Jésus apporte ou met la lumière sur du positif par rapport aux croyants et à l'Église de Pergame. Dans le fond, ce que Christ dit, et avec la mise en contexte que je vous ai donnée, il dit, mais malgré toute cette pression que tu as, malgré toute cette pression, cette lourdeur que tu peux ressentir, eh bien, tu t'es maintenu. Tu as gardé mon nom et n'as pas renié ma foi. En d'autres mots, parce que tu ne participes pas au système qui repose sur l'adoration satanique, parce que tu as résisté à cela, et que probablement tu as perdu des accès à la société, tu as peut-être perdu des privilèges, tu as peut-être perdu des avantages dans la société à cause de mon nom, mais tu as quand même gardé mon nom. Tu as gardé ma foi. Tu n'as pas laissé ça en échange d'obtenir une meilleure stature, d'obtenir une meilleure place dans la société. Tu as valorisé mon nom. De valoriser ma foi en dépit de tout ce qu'il y a autour de toi, dans cette société, dans cette ville. Donc, malgré les cultes païens, et malgré même, et c'est la Bible qui le dit, qu'à Pergame, il y avait le trône de Satan, donc malgré même la présence de Satan dans cette ville. Satan, à un moment donné dans l'histoire, a choisi d'établir son trône dans cette ville. Et ce n'est pas au sens, ce n'est pas une métaphore. Vraiment, Satan avait établi son trône dans cette ville et à partir de cette ville, il envoyait ses ordres et il dirigeait ses forces. Donc, Jésus-Christ dit, malgré la présence même de Satan, son trône dans la ville, tu n'as pas renié ma foi et tu as gardé mon nom. Donc, Jésus-Christ reconnaît cela et Jésus-Christ le souligne. Et il va même plus loin, il dit, malgré la persécution et la mise à mort d'Antipas, mon témoin fidèle. Donc, malgré le fait que dans bien des choses de la société, tu es exclu, tu es marginalisé, mais en plus de ça, de la persécution et même de la mise à mort, eh bien, tu as gardé mon nom et tu n'as pas renié ma foi. C'est toute une déclaration, ça. C'est toute une reconnaissance que le Seigneur est en train d'apporter à l'Église à Pergame. Maintenant, on a mentionné le trône de Satan et c'est en lien directement avec Zeus, avec le fait qu'il y avait dans la ville le temple de Zeus et donc, un lien direct avec le trône de Satan. Satan avait son quartier général dans cette ville et il commandait ses forces depuis cette ville. Dans l'autel de Zeus, il y avait des sacrifices d'animaux, mais aussi des sacrifices humains. Et on pense et on croit que le témoin fidèle, Antipas, a été sacrifié sur cet autel-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque par la suite également, c'est qu'au verset 14, il dit, j'ai quelque chose contre toi, mais on va revenir là-dessus, c'est qu'il parle qu'il y a une doctrine, qu'il y a quelque chose contre l'Église. Il y a le bon côté, les bonnes choses que Dieu veut souligner par rapport à l'Église de Pergame, mais il y a aussi un autre côté, où est-ce qu'il y a une infiltration qui veut corrompre depuis l'intérieur l'Église. Et là, on voit dans le fond les deux grandes stratégies que l'ennemi emploie contre l'Église. L'Église va essayer de détruire l'Église principalement de deux façons. Premièrement, par la persécution, donc par la mise à mort des chrétiens. Et deuxièmement, par l'infiltration, c'est-à-dire en essayant de faire rentrer dans l'Église des courants qui vont venir corrompre la doctrine, qui vont venir corrompre, mixer avec la parole, et qui vont juste faire que les gens, les églises vont se dévier vers autre chose, qui vont tomber dans le fond de la vérité, qui vont tomber de la grâce. Et lorsque l'ennemi est capable de faire ça dans une église, mais il sait qu'il vient de détruire cette église-là. Ça, c'est les deux grandes stratégies. Et à Pergame, là où était le trône de Satan, eh bien, il a employé ces deux stratégies, en même temps même. Parce qu'il y avait d'un côté la persécution et la mise à mort, et d'un autre côté, il y avait l'infiltration par des doctrines de démons, par de fausses doctrines, par de faux enseignements, pour essayer de détruire, dans le fond, l'Église. Ça va jusqu'à maintenant? Et quand vous remarquez l'histoire, vous remarquez que ce sont les deux tactiques les plus largement utilisées par l'ennemi, soit en tuant les chrétiens, en détruisant physiquement le corps, les églises, ou en essayant de s'infiltrer par des fausses doctrines pour détruire l'Église et donc pour arriver dans le fond à la même fin qui est de détruire l'Église. On va lire maintenant les versets 14 et verset 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le Seigneur fait une connexion directe avec ce qui s'est passé dans le désert, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'ils étaient en marche vers la terre promise. Et on voit cela dans les chapitres 22 à 24 du livre de Nombre, lorsque Balak, en voyant Israël, il a voulu payer Balaam pour que Balaam maudisse Israël. Et par différentes façons, différentes tentatives, à plusieurs reprises, il a essayé de convaincre, dans le fond, Balaam de faire tomber, dans le fond, Israël par des paroles de malédiction. Mais l'histoire nous raconte que ce fut le contraire. Balaam, lorsqu'il a ouvert sa bouche, c'était plutôt des paroles de bénédiction qui sont sorties pour le peuple d'Israël. Mais ici, la doctrine qu'on parle, c'est une doctrine, dans le fond, qui encourage à mixer le monde et l'Église. Donc, qui encourage à corrompre le peuple de Dieu, l'Église, par le mélange avec les choses du monde et par deux voies principalement, la voie de l'immoralité et la voie de l'idolâtrie. Donc la doctrine de Balaam, c'est ça, et la Bible nous le dit ici, mais on le voit également dans Nombre chapitre 31 et le verset 16. Il dit, voici Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Balaam, par l'entremise de Balak, incita le peuple d'Israël à se mélanger avec les femmes de Moab et donc de corrompre le peuple dans l'immoralité, mais également de participer en mangeant de la nourriture qui était offerte aux idoles et donc de participer aussi à l'idolâtrie. C'était les deux voies qui ont été utilisées dans cette doctrine-là de Balaam pour corrompre, dans le fond, l'Église, et c'est ce qui s'était introduit. C'est-à-dire qu'il y avait des chrétiens à Pergame que eux voulaient quand même continuer à faire partie de la vie de la société et qu'ils se disaient, ben, il y a quand même un moyen d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de voir Christ, d'avoir la foi en Christ, mais également d'aller, dans le fond, toucher un petit peu le plaisir. Donc, dans le temple, où est-ce qu'il était le plaisir, où est-ce qu'il y avait des prostituées, donc les gens allaient là-bas et pratiquaient l'immoralité, dans le fond. Et de participer aussi avec tous les temples, il y avait tellement d'offrandes, des aliments qui étaient offerts aux dieux païens, bien de quand même participer là-dedans et de manger ou de préparer aussi de la nourriture. Donc, de faire encore partie, en quelque sorte, de la vie païenne, mais également d'avoir une partie dans une présence, une participation dans l'Église. Dans le fond, c'est d'avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Et d'avoir, de jouer à cet équilibre-là, d'avoir le meilleur des deux mondes à chaque fois. C'était ça, dans le fond, la doctrine de Balaam qui nous enseigne ici. Et ce qu'on comprend, c'est que cela amène à la chute. Et cela amène aussi à une conséquence. Pour ça qu'il dit une pierre d'achoppement. Pourquoi la pierre d'achoppement? C'est que en faisant de la sorte, eh bien,